Je dis merci à mes quatre roues qui me trimballent vraiment partout. Et si la vie est aussi dure qu'elle est belle, c'est en partie grâce à elle.
Bienvenue dans l'émission Merci la vie, une émission pour changer les regards sur la vie, sur les gens et sur le monde actuel. Ce n'est pas une émission bisounours, car je suis moi-même atteinte d'un handicap génétique qui fait que je me déplace en fauteuil roulant quotidiennement. Face aux difficultés, j'ai compris l'humilité. Et face aux effondrements, j'ai rencontré les cadeaux les plus improbables. Alors à travers mes expériences, j'espère pouvoir vous transmettre le goût de la vie ainsi que le parfum du bonheur, même dans les moments les plus difficiles. Aujourd'hui, dans Merci la vie, j'ai envie de remercier ce sentiment merveilleux qu'est l'amour. L'amour est souvent assimilé au fait d'être en couple ou confondu avec la sexualité. Mais l'amour avec un grand A, c'est bien plus vaste que ça. Il m'est arrivé de ressentir un frisson rempli d'amour simplement en regardant un nuage. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout de même parler de sexualité et je vais vous partager ma vision en tant que femme en situation de handicap, même si cette vision pourra parler à chacune et chacun d'entre nous. J'ai toujours le souhait que mes mots résonnent pour tous et non à une seule catégorie de personnes. Cependant, je vous suggère d'éloigner les oreilles chastes qui passeraient par là par hasard. Mais revenons-en d'abord à l'amour. L'amour, c'est le contraire de la peur. L'amour, c'est s'abandonner à la vie elle-même. C'est lâcher prise et oser plonger dans le vide pour aller vers ce que l'on ressent de juste. Pour aller vers ce qui nous fait vibrer de joie et ce, peu importe l'inconfort ou non d'une situation. L'amour, c'est toutes ces petites choses que j'essayais de vous transmettre dans chacun de mes épisodes. Mais chacune de ces choses reste un concept lorsqu'elles sont intellectualisées. Elles deviennent des outils pour cheminer, mais ces choses doivent un jour finir par être intégrées dans l'expérience de la vie, par être ressenties au plus profond de notre être. C'est alors qu'on se rend compte ô combien il est difficile de mettre des mots sur cet amour que l'on peut ressentir pour toute chose, à chaque instant et ce, même dans des moments inconfortables. Lorsque je parle de ça, il arrive qu'on m'accuse de vivre dans un monde bisounours, de ne pas être dans la vraie vie. Mais faut-il constamment parler de la douleur et de ce qui ne va pas dans le monde pour sembler adulte et mature? Et si toutes les visions pouvaient se rejoindre? Et si tout le monde avait raison? Alors oui, en effet, il y a des événements atroces sur Terre, en société et à plus petite échelle au sein de certaines familles. J'ai moi-même beaucoup de colère lorsque je vois certaines choses dans les moments de fatigue et de fragilité. Mais je garde toujours une vision au long terme, un objectif, une ligne de conduite. Qu'est-ce que je souhaite à la fin? La guerre ou l'amour? Lequel des deux je souhaite continuer à nourrir? Pas seulement pour moi, mais pour tout ce qui m'entoure. C'est pourquoi je fais le choix de garder foi en la vie. J'ai la conviction que lorsque l'horreur est visible, elle peut également être une invitation à s'ouvrir toujours plus à la splendeur de l'amour. Je vais vous donner un exemple à ma petite échelle. Il m'est arrivé sur plusieurs années de voir les mêmes événements douloureux surgir dans ma vie. Je suis certaine que vous aussi, il vous est arrivé de voir des événements difficiles se répéter. Eh bien, au fil du temps, à force d'avancer, à force d'apprendre, à force de tomber, à force de croire en la vie et de la laisser transformer ce que j'avais besoin de transformer en moi, à force de mettre de la lumière sur mes émotions et de les laisser se dissiper d'elles-mêmes, à force de vivre le moment présent et de comprendre qu'il n'y a pas d'autre choix que de soit le vivre en martyr, ou au contraire, accepter. Accepter ce que la vie met sur mon chemin. À force de tout cela, il m'est arrivé de revivre des événements de la même ampleur, mais plus du tout avec le même effondrement intérieur. C'est là le cadeau de la vie et l'existence de l'amour. À mon sens, il est là le secret de la paix intérieure et de la paix dans le monde. Quand tout va bien, ok, tout va bien. C'est super et c'est important de savoir remercier ces moments-là. Mais lorsque les choses ne vont pas si bien, et qu'à la place de la colère, des pleurs et de l'effondrement, lorsque toutes ces émotions sont au fur et à mesure remplacées par la patience, la confiance et parfois même la joie, là le cadeau est grand. Cela veut dire que nous ressentons cet amour inexplicable. Cela veut dire que nous ne sommes plus seuls et que nous n'avons plus besoin de douter de la beauté de la vie selon les événements. Allez, maintenant on va se marrer un peu. Parlons sexualité. Quel vaste sujet. J'ai malheureusement bien peur de ne pas avoir assez d'un seul épisode pour dire tout ce qu'il y aurait à dire, mais je vais essayer d'aller à l'essentiel. Commençons par toutes ces phrases que j'ai pu recevoir au cours de ma vie. T'es en couple avec lui ? Mais qu'est-ce qu'il te trouve ? T'es en couple, toi ? Mais il est handicapé comme toi alors, non ? Ah, mais l'acte sexuel, tu peux ? Délire, c'est un truc de fou ! Mais tu fais comment ? Il fut un temps où je pensais que ces questions étaient légitimes. Oui, elles peuvent l'être. Mais elles n'ont certainement pas à être évoquées de manière aussi abrupte et qui plus est par des personnes qui n'auront jamais lieu d'être dans notre intimité. C'est d'une extrême violence pour la personne qui reçoit ces mots. Je pense que c'est un mélange d'ignorance de la part des personnes dites valides et un mélange de manque de confiance chez la personne en situation de handicap. Cela crée un cercle vicieux de la part des deux mondes, car la crainte de ne pas être vue comme une personne dite valide nous pousse à vouloir montrer ce dont nous sommes capables, mais au final, nous venons renforcer la croyance, autant chez l'un que chez l'autre, que nous ne sommes pas aptes. Et oui, si je suis pleinement sûre de celle que je suis, alors nul besoin de prouver par diverses manières que je suis ou non un être sexué. C'est ce que je ressens aujourd'hui, car il en va de mon intimité, de ma sexualité, dont ce que pense l'autre, à voix haute ou à voix basse, m'importe peu. Avant, je ne me rendais pas toujours compte à quel point ça pouvait me blesser et ou m'angoisser, la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être suffisante, de ne pas être ceci, de ne pas être cela, mais finalement, peu importe sa condition, telle femme ou tel homme n'a pas déjà ressenti ça. Cette douleur était devenue tellement grande que ça avait développé chez moi une tendance à vouloir prouver que j'étais un être sexué. Et lorsqu'on rentre dans le jeu de vouloir prouver quoi que ce soit, au final, on enfile le costume d'un personnage jusqu'à oublier qui nous sommes réellement et ce que nous souhaitons voir se réaliser dans notre vie ou en société. J'avais même, pour ma part, développé une forme d'addiction destructrice à la sexualité, pensant que c'était cela, être libre. Or, la liberté n'a aucun rapport avec les sensations fortes que peut vivre le corps et les hormones libérées à ce moment-là. La liberté, elle est en nous, elle est dans l'esprit. Tout comme l'amour, elle est en chacun de nous à chaque instant. Regardez Nelson Mandela en parler si bien. Il connaissait ce sentiment de liberté et de paix intérieure, même lorsqu'il était en prison. Tout le reste n'est que florilège ou au contraire, cerise sur le gâteau.
Ce soir la ville est endormie, les humains ont la tête ailleurs. Sais-tu que pour toi mon ami, je chanterai pendant des heures. J'ouvrirai grand les fenêtres pour contempler les joies du ciel. Et je te verrai apparaître comme un éclair, une étincelle. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Derrière les murs et les façades et les discours de circonstance, quelques imprudences évadent, s'affranchissant des convenances. Et les voilà qui nous rejoignent, comme dans un grand bal populaire. Sens-tu nos peines qui s'éloignent, demain sera plus beau qu'hier. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté. Amis, les arbres sont en fleurs et nous revoilà désormais comme des frères, comme des sœurs. Et les soldats sont désarmés. Nous dansons pieds nus sur la terre, nous tanguons sur le toit du monde. Nos âmes qui voguent au grand air sont sur la même longueur d'onde. C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté.
C'est ici que tout commence, le temps peut bien s'arrêter. Pour une nouvelle danse, toi et moi, ma liberté.
Là n'est pas la faute des personnes exprimant leur ignorance sur la sexualité des autres, non. Là n'est la faute de personne d'ailleurs, car dans une situation, nous avons tous notre propre responsabilité ainsi qu'un rôle à jouer. Si autant de personnes sont omnibulées, autant interrogées et ou remplies de préjugés concernant la sexualité des handicapés, des personnes âgées, des uns et des autres, c'est parce que la société joue également un rôle. Que ce soit par la télé, le cinéma ou autre moyen, elle tend à nous faire confondre l'amour et la sexualité. Comme si le sexe était forcément la base de tout épanouissement, alors qu'il peut être tout simplement la cerise sur le gâteau et non une base. Je pense que c'est là une grande pression autant pour les hommes que pour les femmes. Une pression qui bloque ou qui, au contraire, ouvre la voie à toujours plus de sexualité. Je ne dis pas que l'acte sexuel est à proscrire. Oh non, loin de moi cette idée. Ce que je dis, c'est qu'il est important de parler d'amour avant de sexualité. Nous disons souvent que le sexe est tabou dans notre société. Dans un sens, je ne pense pas. Nous connaissons tous des blagues clairement sexuelles, la pornographie est un fléau, les clips musicaux misent tout sur le côté sexuel des corps, pareil pour certaines publicités. Quant à l'école publique, à peine sommes-nous arrivés au collège que l'on nous apprend comment mettre un préservatif. Je me souviens même de ce sentiment de devoir faire la course à qui aura perdu sa virginité la première. Mais personne ne nous apprend à aimer réellement, correctement. Je pense sincèrement que le sexe cru n'est pas un tabou. C'est l'intelligence émotionnelle qui est un tabou. L'amour est un grand tabou. Je finirai cet épisode en parlant de l'assistance sexuelle. J'ai découvert l'existence de ce mouvement lorsque j'avais environ 20 ans. Je parle ici de mouvement car l'assistance sexuelle n'est actuellement pas autorisée en France parce qu'elle est assimilée à de la prostitution, une pratique illégale en soi. C'est un métier légal dans d'autres pays tels que la Suisse, la Belgique, l'Allemagne et quelques autres. Au début, je me suis dit « Génial ! Enfin, les personnes en situation de handicap vont être considérées comme des êtres sexués !» Puis, j'ai commencé à me renseigner. Sur Internet, plusieurs définitions existent, comme par exemple « Former, le professionnel tente de raviver le désir sensuel et sexuel des personnes handicapées qui le demandent car elles sont dans l'incapacité motrice de le faire elles-mêmes. » Au début, je pensais que c'était une aide à la découverte de son corps lorsque nous avions un lourd handicap physique. Je pensais que c'était la possibilité de se préparer à une future vie sexuelle avec un réel partenaire. En effet, si nous sommes dans l'incapacité de bouger nos bras et nos jambes, nous ne connaissons pas ou très peu notre corps. Je me disais donc que l'assistance sexuelle pouvait aider les personnes sur ce style de questionnement. Quelle forme mon corps a-t-il ? Cela fait quoi de se voir toute nue devant un miroir ? Cependant, lors d'une conférence à laquelle j'ai assisté, je me suis interrogée sur le cadre de cette nouvelle émergence. Quelles sont les limites de ce métier afin de préserver le corps et l'âme de ces personnes en situation de handicap? J'ai découvert qu'il n'y avait aucune limite. C'était selon les envies et les demandes de chacun. La seule règle est que tout le monde y prenne du plaisir. Au-delà de la possibilité de vivre la jouissance physique, il est même possible d'aller jusqu'à la pénétration. Mais alors, quelle est la différence avec la prostitution ? Les défenseurs de l'assistance sexuelle sont régulièrement outrés de cette comparaison et ont des arguments tels que l'assistance sexuelle ne peut pas être comparée à de la vulgaire prostitution. Ou encore, l'assistance sexuelle est un vrai métier, c'est de l'humanitaire, pas de la prostitution. Voici la définition de la prostitution. Acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes moyennant rémunération. Étant donné que l'assistance sexuelle n'a pas de limite et qu'elle procure généralement un acte sexuel avec ou sans pénétration, le tout contre rémunération, j'affirme que c'est de la prostitution. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis simplement qu'un chat s'appelle un chat. Lorsque nous souhaitons défendre une idée, il est important de pouvoir l'assumer pleinement et dans toutes les vérités qu'elle comporte. Pour telle raison, le métier d'assistant sexuel serait-il plus louable que celui de prostituée ? Je me suis moi-même renseignée sur les différences qui pouvaient exister. Je me disais, peut-être que le prostitué, c'est trop cru, trop purement sexuel, trop violent pour une découverte de son corps lorsqu'on est en situation de handicap. C'était une croyance totalement fausse. Le prostitué, contre rémunération, peut simplement passer une après-midi à discuter autour d'un verre lorsqu'une femme, qui en l'occurrence n'était même pas en situation de handicap, n'a pas réussi à sortir et à faire des rencontres depuis longtemps. Cela peut potentiellement l'aider à se lancer et à reconnecter avec sa féminité. Aussi, j'estime que, comme toute personne, les personnes en situation de handicap peuvent avancer dans leur vie à partir du moment où elles acceptent de sortir du statut de victime. Or, la création de l'assistance sexuelle spécialement pour elles, c'est les remettre dans un statut de victime qui confirme indirectement ce qu'elles pensent. Cela peut être par exemple la croyance qu'elles ne sont tellement pas désirables qu'il n'y a plus d'autre choix que de créer un service sexuel spécialisé dans le handicap. C'est évidemment faux. Certes, il y a des handicaps très très lourds, encore plus lourds qu'une tétraplégie. Cependant, dans tous les reportages et interviews que j'ai pu écouter, la plupart des personnes en situation de handicap qui témoignent n'ont pas un handicap si conséquent. Elles pourraient totalement accéder à de la prostitution, à des rentards d'un soir ou à une relation durable selon les désirs de chacun. Nous souhaitons être considérés comme tout le monde, mais nous souhaitons un service spécial car pour nous c'est plus compliqué. Cela n'a pas de sens. D'autre part, je m'interroge sur ceux qui souhaitent faire ce métier. Particulièrement ceux qui ne supportent pas la comparaison faite avec la prostitution. Ils affirment que ça n'a rien à voir, que c'est un don de soi, que c'est un réel métier. Qu'est-ce qui les dérange dans la prostitution? Qu'est-ce qu'ils n'assument pas dans leur pratique? J'estime que le déni peut mener à des comportements dangereux, voire à de la perversion. Plus il est proclamé que c'est un acte altruiste, plus la notion de victime sauveur est flagrante. D'ailleurs, il existe de sources sûres des hommes dits « valides », addicts à la pornographie des corps handicapés et se disant assistants sexuels. Ces personnes-là peuvent totalement obtenir la formation d'assistant sexuel car elles savent très bien le tâcher en société. De plus, la formation pour devenir assistant sexuel coûte 700 euros et dure seulement 4 jours. Autant dire qu'elle est dangereusement accessible. Puis, il y a ceux qui ne croient même pas en nous alors que c'est censé être leur métier. Par exemple, une assistante sexuelle proclame sur un forum « Il ne faut pas se leurrer. Rares sont ceux qui pourront vivre une sexualité en dehors d'une rencontre tarifée. » Elle dit également « Le plus difficile à gérer reste mon compagnon qui souffre de la situation. » Je trouve ces affirmations choquantes. Entretenir inconsciemment ce concept ne peut pas aider les personnes en situation de handicap à se mettre en couple de manière saine. C'est pourtant, dans certains cas, une des promesses faites par l'assistance sexuelle. En effet, les assistants sexuels proposent, si telle est la demande, une éducation affective et sexuelle qui donnerait la possibilité de se mettre en couple par la suite. En plus du fait que la croyance « un homme se tient par le sexe » se voit renforcée, j'ai pu retenir des témoignages dont un que je vais vous développer ici. Au début, c'était plaisant pour la personne en situation de handicap. Elle m'a dit avoir découvert une nouvelle approche sexuellement, de nouvelles possibilités, et elle se sentait enfin capable de donner plus de ce qu'elle pensait. Mais rapidement, elle s'est rendue compte que ça tournait de nouveau en rond. Elle devenait dépendante des rencontres prévues avec cette assistance sexuelle, comme lorsqu'elle recourait à des prostituées. Et elle ne voyait pas sa vie affective s'améliorer. Au contraire, elle a alors tout arrêté pour se plonger corps et âme dans son travail. Un autre moyen d'oublier. En dehors du sexe, La seule chose qu'on lui avait apprise était les coutumes d'usage pour un rendez-vous, telles qu'une belle tenue vestimentaire, une bonne bouteille de vin, des regards évoquant la séduction. Conclusion, l'éducation affective est terriblement manquante au sein de l'assistance sexuelle. La personne de ce témoignage ne cherchait pas uniquement à se connaître sexuellement, non. Elle voulait s'ouvrir à une relation amoureuse. Elle était prête et ses espoirs ont été mis à l'eau. Cette promesse non tenue est terrible, car elle vient d'autant plus renforcer toutes les croyances de la personne peut se faire vis-à-vis de son handicap et de sa capacité à se mettre en couple. Voici le témoignage d'une autre femme. Les hommes ont vraiment du mal avec le handicap. Or, elle a une amyotrophie spinale, un handicap génétique qui est loin d'empêcher des rencontres amoureuses ou sexuelles. J'en suis moi-même atteinte et je suis heureuse d'avoir vécu plusieurs relations, dont une qui a duré plus de 5 ans. Alors, quel est le blocage chez cette jeune femme ? C'est sa croyance lorsqu'elle affirme « Je serai épanouie lorsque j'aurai trouvé quelqu'un qui m'aime ». Une aide dénuée de sexualité lui aurait redonné de la responsabilité et aurait transformé sa croyance limitante. Elle aurait appris comment toucher le cœur d'un homme grâce à tout ce qu'elle est, grâce à toute son histoire, grâce à tout son parcours, grâce à ses forces, mais aussi grâce à ses faiblesses. Encore une fois, je ne viens pas dire par la présente que l'assistance sexuelle est quelque chose de bien ou de mal. Je viens simplement apporter un autre regard et dire « attention ». Le sauveur ou la personne qui semble vouloir faire une bonne action n'est parfois pas consciente elle-même de ses réelles motivations et du côté néfaste de son acte.
Un tatouage sur la peau, des cicatrices sur son dos, un passé bien à elle,
la demoiselle.
La vie bascule un beau matin, nouveau décor, nouveau chemin, un carrefour, une hirondelle,
la demoiselle.
Parfois la vie fait des miracles, elle a surmonté les obstacles, aujourd'hui elle tire les ficelles,
la demoiselle.
Belle, plus jamais seule, elle danse en fauteuil, la belle roule sur la vie sans elle. Quel intérêt d'avoir de pied si on ne sait pas où aller.
Le cœur en feu, elle est sincère, elle raconte sa vie sans frontières, on la kidnappe des yeux,
la demoiselle.
Elle voudrait faire le tour du monde, vivre ses humeurs vagabondes, elle pense aux Indiens, aux Cheyennes,
la demoiselle.
Belle, plus jamais seule, elle danse en fauteuil, la belle roule sur la vie sans elle. Quel intérêt d'avoir de pied si on ne sait pas où aller.
Une étincelle dans les yeux, partager un fauteuil pour deux, tu la pousses, elle t'entraîne,
la demoiselle.
Elle aime chanter du John Lennon dans un yaourt que l'on fredonne. Hey, chante avec elle,
la demoiselle.
Sono, ciao, bye bye, la vie solo, des rencontres à l'appel,
la demoiselle.
Si tu la croises sur la route, tu verras, ça fait aucun doute, tu voudras partir avec elle,
la demoiselle.
Aïe, 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 aïe.
la seule chose que nous cherchons tous en permanence, c'est d'être aimés. Mais nous avons oublié que nous étions inévitablement et inconditionnellement aimés par la vie. Alors oui, bien évidemment que oui, l'éducation sexuelle a son importance. Mais l'éducation de l'amour est bien trop laissée aux oubliettes. Nous avons oublié ce que c'est que d'aimer. Alors remettons l'amour au cœur des apprentissages. Remettons l'amour au cœur de la vie. Et lâchons prise sur les jugements qui incombent la sexualité des autres. La sexualité appartient à l'intimité d'une personne ou à l'intimité d'un couple s'aimant profondément. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont toujours cru en moi et qui savent faire preuve de tact lorsque cela est nécessaire. C'était le dernier épisode de l'émission Merci la vie, car d'autres projets m'appellent. Sachez que je me sens honorée d'avoir pu partager tous ces sujets avec vous, chers auditeurs et auditrices. Je tiens à remercier également toutes les types de Radio Escapade. Ils m'ont accueilli les bras ouverts et l'ambiance est toujours au top ici. Je ne sais pas si je reviendrai un jour sur les ondes de Radio Escapade, mais en attendant, pour toute question, n'hésitez pas à en faire part à Radio Escapade et vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Je vous dis à bientôt et merci!
Je dis merci aux temps qui s'écoulent et à ceux qui font leur part. Bienvenue à ceux qui déboulent et bonne route à